Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie 1.1-trait, la librairie de l'Odève, située au 6 bis boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou de redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence ou d'une exposition. Ce mois-ci, dans la salle d'exposition de la librairie, où a lieu cette rencontre, vous pouvez découvrir les œuvres d'Ahmed Djelilat. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Richard Gougis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Midi Libre, et tout lorsque vous n'écrivez pas, eh bien vous écrivez des polars.
Voilà.
Donc avant de plonger dans le premier tome, mélangeant légendes cathares, templiers, hospitaliers, meurtres pour des enquêtes du 21e siècle, racontez-nous vos premiers mots ou comment est née votre envie d'écrire.
L'envie d'écrire, je pense qu'elle remonte à loin. Elle remonte à mon désir d'être journaliste, donc journaliste sportif, entre guillemets, puisque je dirige le service des sports de Midi Libre, et de raconter des histoires, donc des histoires liées au sport, puisque c'était ma passion de jeunesse. Mais passionné également de polar, l'envie d'écrire des romans est venue avec l'envie de lire. Et à force d'en lire, je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer ? Et quitte à se lancer, autant se lancer sur un terrain régional, sur quelque chose qui met aussi en valeur l'Occitanie, qui est une très belle région.
Donc, pourquoi des romans policiers ? Vraiment parce que c'était ce qui vous intéressait le plus ? Parce que c'est loin du sport, quand même.
Oui, et puis... je pense que dans le roman policier, un petit peu comme dans la chose sportive, il y a des bases très concrètes. Hein. On s'appuie sur une intrigue,
sur les drogues, les combats comme ça, le sport, le policier.
Voilà,
ça.
Tout à fait. Et puis, moi, j'aime bien m'appuyer aussi sur des faits historiques. Voilà, donc faire référence au passé. Et ce qui m'oblige à faire des recherches et ce qui me permet aussi d'apprendre ou de réapprendre des choses en préparant mes romans.
Oui, c'est vrai que le premier tome, Hérésie, Négligence, le second, deux romans policiers, plutôt thrillers d'ailleurs, sont parus aux éditions Ella. Ils relatent des enquêtes où se déroulent dans la région, surtout avec deux personnages, Félix Celestini, oui, et Samir Malouni, des personnages plutôt dissemblables. Le dandy provincial, le jeune au look jean baggy. Parlez-nous un peu de ces deux personnages.
J'ai voulu créer deux enquêteurs au profil bien différent. Alors un Celestini qui, comme vous dites, aurait plutôt le profil un peu taciturne d'un Maigret ou d'un Adamsberg de Fred Vargas. Mmh. Hein, on puise toujours à droite à gauche.
Chacun effectivement des références.
Dans des références. Et Malouni qui lui serait plutôt un jeune flic, un jeune chien fou aux méthodes expéditives. Et avec un profil un peu...
un peu sportif, on va dire.
Oui, et puis un beurre de cité qui finalement, pour lui, l'ascenseur social, c'était la police, rentrer dans la police. Et quelque part, il en nourrit toujours à la fois une fierté et aussi un petit complexe. Il a toujours l'impression qu'on le regarde un peu de travers, qu'on ne le prend pas au sérieux. Et il a toujours besoin de prouver encore et toujours qu'il est au même niveau que les autres flics. Quoi.
Bon, il y arrive visiblement assez bien, quand même, au cours de la première enquête, la seconde évidemment aussi. Pour vous, notre territoire offre-t-il justement l'ambiance nécessaire et le décor pour toutes sortes d'histoires, parce que c'est chargé. Mais...
Tout à fait, c'est chargé en histoire. Et moi, j'ai voulu écrire un premier thriller, Hérésie, qui mettait en valeur le patrimoine et surtout les cathares, parce que j'ai été fasciné, moi, par les châteaux cathares que j'ai découvert, notamment à travers une épreuve qui était le Grand Prix cycliste Midi Libre, que je couvrais. Et moi, qui suis originaire de la région centre et qui suis arrivé ici, jeune journaliste, à 20 ans, je ne connaissais pas du tout la région. Et cette épreuve m'a permis de découvrir l'arrière-pays, les Cévennes, la Lozère et les châteaux cathares. Et j'étais fasciné, je suis retourné les visiter, j'étais fasciné par cette histoire des cathares et par ce qui leur est arrivé. Et je trouve que c'est quelque chose qui reste relativement sous silence. On n'en parle pas énormément, on en parle un petit peu plus peut-être dans la région parce que c'est local. Mais au niveau national, il y a même un espèce de négationnisme, certains historiens qui commencent à dire... Mais est-ce que la religion cathare a vraiment existé? Est-ce que c'est pas une invention?
Alors, c'est vrai que pour replanter un petit peu le décor du premier tome, Hérésie, il y a des meurtres violents, des guérisons étonnantes, des légendes cathares, templiers, hospitaliers et des méchants adorateurs du nazisme. Ces légendes qui vous ont inspiré, bah, vous en parliez un petit peu déjà, mais la différence cathares, templiers, hospitaliers, là vous avez fouillé un petit peu.
Oui, j'ai fouillé. Alors il y a des liens, puisque je suis parti d'une légende qui prétend qu'un templier a réussi à s'introduire dans la forteresse de Montségur la dernière nuit avant le massacre, le bûcher des cathares. Qui sont considérés comme étant les derniers cathares. En fait, il y a encore eu des petites cellules cathares dans la région, ici ou là, pendant quelques années après. Mais c'était la dernière grosse cellule cathare, Montségur. Et on prétend qu'un templier est parti avec le trésor ou le secret des cathares. Donc, qu'est-ce que c'est que ce trésor? Qu'est-ce que c'est que ce secret? Ça va un petit peu être le fil rouge qu'il va y avoir derrière l'enquête. Et à travers ces deux intrigues, puisqu'effectivement, sur les chemins de Compostelle, sur le chemin qui part de Saint-Gilles et qui passe par Saint-Guillaume-le-Désert, on a des meurtres violents de pèlerins. Mais est-ce que ces pèlerins sont vraiment des pèlerins qui n'ont rien à se reprocher? Et sur un autre chemin qui part du Puy-en-Velay, là, on va avoir des guérisons mystérieuses. Et effectivement, les deux chemins et les deux enquêtes vont se croiser à un moment donné, à la croisée des chemins. Et c'est là où Malouni et Celestini vont devoir collaborer pour démêler tout ça, en fait.
Moi, je me suis emmêlé la voix qu'on perd en avalant de travers ma petite gorgée d'eau. J'aurais pas dû. Pourtant, vous évoquiez effectivement une des pistes concernant une solution de ce mystère et de ce trésor des Templiers, dont je ne vais pas révéler, évidemment, la source, mais c'est une piste plutôt intéressante et intrigante. Et qui sont évidemment la source de ces meurtres violents. C'est quoi cette voix qui se barre en sucette? C'est terrible.
Et j'ai mis au milieu. J'ai
je
mis
vais prendre un verre.
J'ai mis au milieu les nazis, et en particulier l'ordre de Thulé, qui est la branche ésotérique des nazis, parce qu'effectivement, et de façon véridique, les nazis sont venus du côté de Rennes-le-Château pour chercher le trésor de la Bessonnière. Et cet ordre de Thulé. Qui a inspiré la branche exotérique, c'est-à-dire la branche que Hitler a mis en place.
Vous faites bien la différence entre ésotérique et exotérique.
Voilà, tout à fait.
Pour vous donner une petite explication, donc, je vous laisse la redonner.
La branche ésotérique, bah, c'est celle qui est, comment dirais-je, un peu mystique. Et qui a recherché donc, le secret des cathares, le secret des druides. Les forces telluriques, les nazis pensaient que les forces telluriques existaient et que l'utilisation de ces forces pouvait leur faire gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et ils croyaient à l'existence d'hommes, de surhommes transparents du côté d'un territoire nommé Ultima Thule, d'où le nom d'ordre de Thule. Et d'hommes purs qui, alors dans des terres du côté du Groenland, qu'on appelle l'Hyperborée. Et c'est ça aussi qui finalement a inspiré le mythe de la race aryenne derrière.
Effectivement ce que vous racontez.
Tout à fait. Et effectivement, les nazis sont venus fouiner par ici. Et donc, j'ai créé, là, j'ai imaginé un tueur nazi. Et cette société secrète très obscure qui rôde encore pour essayer de mettre la main sur le secret des cathares.
Donc, les très méchants nazis que l'on retrouve aussi dans le second tome. Hein. Les nazis, vous aimez vraiment pas. Vous les aimez vraiment pas. Hein. Dans le second tome de Négligence, ça nous plonge dans une série de meurtres plutôt gore, où la moitié du corps est simplement préservée. L'autre, je n'ose décrire dans l'état dans lequel il se trouve. Et nos principaux enquêteurs, Félix Celestini et Samir Malouni, mettent un peu de temps, je trouve d'ailleurs, à se retrouver dans ce second tome. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
Alors, ils mettent un peu de temps à se retrouver, bah, parce que Félix Celestini a été très secoué par la première enquête dans Hérésie, où il va être impliqué de façon très personnelle, finalement. Mmh. Il ne s'en rend pas compte au départ, il va s'en rendre compte sur la fin. Donc, Celestini va partir se mettre un peu au vert dans un lieu de vieille pierre, un lieu très mystique. Et Malouni, qui lui s'est lui aussi posé beaucoup de, a été très secoué, s'est posé beaucoup de questions. Il s'est même demandé s'il n'allait pas quitter la police. Donc il a changé d'affectation et il va se retrouver affecté dans la région centre, à Orléans, où il se trouve que l'enquête va rebondir également. Et j'ai voulu créer des nouveaux personnages qui étaient plus au cœur de cette nouvelle intrigue pour faire en sorte que aussi les gens qui n'ont pas lu le premier puissent tout à fait lire Négligence indépendamment, puisqu'il s'agit d'une nouvelle intrigue, même s'il y a des passerelles avec la première et qu'on retrouve les mêmes enquêteurs. Les deux personnages centraux sont un nouvel enquêteur, donc qui s'appelle Fournier, qui apparaît un petit peu dans le premier,
Oui.
collaborateur de Célestini, mais qui reste dans l'ombre dans le premier.
Oui, c'est vraiment axé sur le premier,
Voilà.
sur ces deux personnages
Voilà.
que je rappelle. Il y en a un enquêteur à Montpellier, l'autre à Nîmes, si je dis pas de bêtises.
Voilà, c'est ça. Et Fournier va être au centre de la deuxième enquête. Et c'est un enquêteur qui sort d'un terrible drame personnel, qui a voulu reprendre le boulot quand même, mais est-ce qu'il n'a pas repris un peu trop tôt? Enfin, il va vraiment être entraîné dans ce tourbillon et ça va être très compliqué pour lui. Et l'autre personnage est
Jeune femme,
une femme d'une
enfin
quarantaine d'années.
jeune.
Oui.
Si à côté de moi j'ai beaucoup de cheveux blancs, c'est pour ça.
Anna, qui elle habite dans la région centre et qui va recevoir un courrier un beau jour anonyme avec un document qui va remettre en cause tout ce qu'elle croyait être de ses origines, de son existence. Donc elle va être très secouée aussi.
D'ailleurs, pour rebondir sur les personnages, la plupart de vos personnages, en tout cas ceux qui
Oui.
ressortent, que ce soit Célestini, Anna effectivement dans celui-ci, mais aussi résultant chez les morts dans le
Oui.
second tome, il y a toujours cette question de la dualité, c'est-à-dire que la question de l'origine, est-ce qu'on est unique ou duo? Il y a même la question de la jumélité sur le premier tome. Bref, il y a toujours cette question qui
Tout à
vous
fait.
travaille. Est-ce
Oui.
que ça vient d'où cette question de la dualité?
Bah, je pense que quelque part, c'est peut-être une symbolique aussi du bien, du mal. Et puis, je crois que à travers cette couverture, hein, alors
Qui révèle un tant soit peu l'état
je pense que
des
voilà
morts.
qui révèle aussi cette dualité, je pense, et ce désir qu'a chacun de nous de trouver sa moitié quelque part. Donc c'est aussi derrière, et je pense que là, c'est vraiment ce que j'ai voulu rechercher dans Négligence. Il y a vraiment la quête de l'autre moitié de soi. Alors ça peut être la quête de ses vraies origines. Ça peut être la quête d'un frère ou d'une
D'une sœur.
sœur, jumeau ou
Ou jumelle.
jumelle. Voilà, ça peut être la quête de la vérité, tout simplement. Ou pour un enquêteur qui traverse une période très difficile, bah voilà, la quête de sa propre identité, peut-être, tout simplement.
Est-ce que ça vient révéler quelque chose en vous que vous exprimez aussi à travers vos écrits, vos polars
Ben, je pense que tout écrivain, finalement, cherche à révéler un côté un peu caché. Beaucoup de gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de plutôt qui paraît plutôt réservé, plutôt très posé. Quand les gens lisent mes thrillers, ils sont, mais, on n'aurait pas imaginé que tu pouvais écrire quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça révèle un côté obscur. Peut-être qui est un peu dissimulé, mais je m'efforce toujours de faire en sorte que si, même si mes polars sont très sombres, parce que c'est le genre qui veut ça, il y a toujours des puits de lumière, des rayons de lumière qui apparaissent, et notamment à la fin de Négligence, je pense que voilà, il y a un beau rayon de lumière qui apparaît à la fin et qui laisse
Entrevoir
entrevoir une
suite.
suite.
D'ailleurs, sur cette dualité, alors c'est aussi un des sujets de ce second tome, Négligence, vous parlez de la maladie NSU.
Oui.
Oui, alors qu'est-ce cela aussi? D'où avez-vous été
Alors,
chercher ça?
effectivement, les gens me demandent souvent, mais où est-ce que tu vas puiser tes sources de polar?
Dans la
Alors,
nécrologie de Midi Libre,
non, tout
peut-être?
simplement en regardant une émission sur la santé. Une émission hebdomadaire sur la santé et qui parlait de cette maladie. Et ça m'a vraiment interpellé, parce qu'effectivement, alors on ne va pas tout dévoiler pour les lecteurs, mais effectivement.
Mais en revanche, quel est le sens de la NSU? Parce que je vous
Alors
laisse rebondir
effectivement,
dessus.
la négligence spatiale unilatérale. Alors, c'est une pathologie du cerveau qui intervient souvent quand on a des désordres dans un hémisphère et souvent quand il y a une tumeur ou qu'il y a eu un AVC. Et du coup, les personnes ont des troubles de la vision et ne perçoivent plus du tout ce qui est dans la partie du champ gauche, en fait. Et il y a des symptômes qui sont très étonnants, une personne qui souffre de ça. Alors, les gens, en plus, ne sont pas conscients de ce qu'on appelle la négligence.
De cet
Voilà.
handicap,
Voilà,
en
ça
fait.
explique un peu mieux le titre qui, évidemment, est à double sens, négligence au pluriel. Les gens négligent leur négligence, c'est-à-dire que la personne qui souffre de ça, qui va manger une pizza, c'est un peu schématique, mais elle va manger que la partie droite de sa pizza, elle va laisser la partie gauche, mais pour elle, son assiette va être vide.
Inexistant. D'où
Voilà.
l'état des cadavres que l'on trouve dès l'introduction du
Alors,
livre,
voilà.
où c'est assez surprenant
Une
d'avoir.
partie jaune, une partie complètement intacte, comme si le tueur avait tracé une ligne vraiment symétrique, pratiquement symétrique, centrale sur le corps. Et les enquêteurs vont penser, alors un petit peu par hasard, mais vont être mis sur la piste de cette maladie et vont se demander si le tueur n'est pas quelqu'un qui souffre de cette pathologie. Mais ils vont très vite se rendre compte qu'il va leur falloir fouiller
Bien plus loin.
bien plus loin et dans les méandres de l'histoire et d'une autre histoire qui, comme vous le disiez, est plutôt liée aux nazis et à toutes les horreurs que les nazis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
D'ailleurs, la violence des morts, leurs horreurs, sont-elles à vos yeux si démesurées? En tout cas, dans les écrits, les cadavres sont quand même dans un piteux état. Est-ce que pour vous, ils doivent être incarnés à ce moment-là par le mal absolu? Et pour vous, le mal absolu est-il justement celui incarné par les nazis et leur
Oui,
horreur?
je le pense parce que tout ça va nous ramener. J'aime bien qu'il y ait quelque part, mes morts sont rarement gratuits. Bien souvent, les victimes ont aussi quelque chose à se reprocher. Et il y a souvent une notion de vengeance, de réhabilitation dans mes romans. Et là, effectivement, très clairement, il y a... la notion de vengeance qui apparaît et qui est liée à ce que les nazis ont pu faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors bon, on ne va pas tout dévoiler non plus, mais certaines expérimentations qui ont pu se faire. Et là aussi, on en parle beaucoup moins, parce que la déportation au sens large, on en parle énormément, tout ce qui a pu se passer. Mais l'expérimentation médicale qui a eu lieu dans les camps de la mort, ça a été beaucoup moins détaillé. Et là, notamment, je me suis appuyé sur un livre de Michel Simès, le médecin animateur bien connu, puisque lui, son père a été déporté et a été victime de ça. Et il a énormément détaillé tout ce qui avait pu se faire. Et il y a des choses qui sont tout à fait abominables, quoi, ce qu'on a pu faire sur des cobayes. Donc ça, c'est quelque part, je pense qu'il y a un devoir de mémoire aussi à travers. C'est pas quelque chose de gratuit, et c'est une manière de rappeler aussi ce qui a pu se passer. Et ce qui m'a amusé, c'est que j'ai écrit ce livre au moment où il y avait des prix littéraires qui étaient attribués à beaucoup de livres parlant du nazisme. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux
que ça se révèle à nouveau.
que ça se passe dans ce mouvement-là, quoi. Et c'était pas par hasard, sans doute.
Je voudrais revenir un petit peu vraiment sur cette ambiance de dualité qui est à la fois dans le premier tome de manière très claire aussi par rapport à l'évolution des différents personnages, que ce soit les personnages principaux, avec l'interrogation et les conséquences pour lesquelles on découvre Célestini très tard dans le second tome, question de dualité, le bien, le mal, les extrêmes, que ce soit dans l'état des cadavres, mais aussi dans la vision qu'ont le mal incarné par les nazis, les interrogations à chaque fois des deux personnages, vraiment cette notion entre les deux, j'ai envie de vous dire, mais d'où ça vient au fond de chez vous? Vous l'évoquiez tout à l'heure aussi un petit peu sur l'apparence que vous donnez de quelqu'un de calme, et d'un autre côté, vous écrivez quelque chose qui s'extériorise là-dessus. D'où ça vient?
Je ne saurais pas vous le.
Est-ce que ça remonte
Non.
si loin que ça dans vos origines?
Non, non, je pense pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans le deuxième, le roman rebondit beaucoup dans la région centre. Et Fournier, qui justement est lui aussi originaire de cette région-là, va retrouver Orléans, va retrouver la Loire, qui est un fleuve très paisible. Donc là, quelque part, il y a vraiment eu une espèce d'identification, je pense, avec des souvenirs d'enfance de Fournier qui peuvent s'apparenter un peu aux miens. Mais après, sur la dualité du bien et du mal, non, je pense que certainement qu'il y a pour moi une fascination un peu pour ça. Et on se rend compte que finalement, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et même je pense que même les méchants, entre guillemets, peuvent à un moment donné avoir des zones blanches ou des zones grises au même titre que les policiers ou les héros. Je pense qu'il y a. Il y a une espèce de zone dans le polar où tout le monde se retrouve et où il y a des cas de conscience. Je pense que l'humanité est comme ça, tout simplement. Donc il faut essayer de le retranscrire à travers les écrits, peut-être pour que ça paraisse plus crédible.
Plus crédible, plus réel.
Oui.
Et justement, à la fin du premier tome, on a envie de découvrir effectivement la suite des aventures. On est frustré parce qu'ils viennent que tardivement. De même, à la fin du second, on a envie de découvrir une suite. Quel est l'avenir de Célestini et de Malouni?
Bah écoutez, on va les retrouver très rapidement et ils vont être très vite dans le vif du sujet, puisque Malouni va rester sur un combat très rude, un combat très difficile qui va lui laisser beaucoup de traces morales et physiques. Et il va avoir envie de poursuivre ce combat et donc il va être amené sur les traces du monstre avec lequel il va être aux prises.
Encore un nazi qui revient.
Mystère,
En tout cas,
mystère.
quand vous évoquiez le personnage de Malouni, vous parlez de combat. C'est vrai que pour ceux qui ont lu le premier tome, il est quand même pratiquant des arts martiaux.
Tout à fait.
Il a l'air de lever la jambe de manière assez efficace.
Il rechigne pas à aller au combat, il aime
Voilà.
bien ça, il donne de sa personne. Voilà.
Exactement. Donc c'est là où on sent l'impulsivité ou l'action de cet enquêteur, à l'opposé effectivement de celui que j'imagine plus comme un dandy Celestini. Là encore, de la dualité.
Oui, et Celestini, on va le retrouver dans le troisième assez rapidement, puisque lui aussi, son histoire personnelle n'est pas achevée, puisqu'il va continuer à être à la recherche de proches qui auront disparu. Donc voilà, il va continuer cette quête personnelle. De même que Fournier, le troisième enquêteur, celui qu'on retrouve surtout dans le deuxième, et qui lui va, comment dirais-je, va être plongé dans une histoire personnelle avec beaucoup plus de bonheur, puisque lui va essayer de trouver peut-être sa moitié, de trouver un peu d'apaisement. Mais là aussi, les rebondissements dans l'enquête vont remettre tout ça en question. Donc il va y avoir dans le troisième une nouvelle intrigue, mais qui fera un petit peu le lien des deux précédentes et qui va permettre d'être un petit peu le point d'orgue de toutes ces histoires personnelles
Parce que c'est vrai
qui
qu'aussi dans
sont en
les
cours.
histoires personnelles qui se dévoilent, au cours des différents tomes, même dans le second, un des personnages principaux, Anna, est aussi dès le départ confrontée à une question de ses origines.
Oui, tout à fait.
Là aussi, d'où vient cette envie de parler de ce type d'histoire où une femme découvre que les parents qu'elle pensait être les siens ne le sont pas forcément. Ça, on le découvre dès le début, donc je ne révèle pas
Alors
quelque chose d'extraordinaire encore.
là, c'est aussi,
Quoique.
je pense, un bon prétexte pour voyager, pour faire voyager le lecteur, justement, puisque ça va permettre dans Négligence de partir à l'étranger, de partir en Pologne, de découvrir ou redécouvrir Varsovie, son histoire, puisque c'est certainement la ville qui a été la plus meurtrie, la plus détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué quand j'y suis allé. Et on sent les gens à la fois marqués par ça, notamment les gens d'un certain âge, et un espèce de désir d'amnésie, de ne pas en parler, de ne pas l'évoquer, de mettre ça sous le tapis. Alors qu'en fait, non, cette ville, elle a vraiment été meurtrie et elle mérite d'être redécouverte parce que c'est une très belle ville. Et donc il y a la Pologne et puis il y aura des voyages aussi après au Brésil. J'ai eu la chance moi de couvrir la Coupe du Monde de football au Brésil en 2014 et c'est un pays qui m'a vraiment séduit, qui m'a marqué. Et donc j'ai réutilisé On est un petit peu comme des éponges, on absorbe des choses. C'est comme ça, moi, que même pendant l'écriture, pendant l'écriture du troisième qui est en cours, il sera à nouveau question d'histoire, mais là on partira plus loin. Alors puisqu'il y aura des liens et même une base par rapport à l'Égypte ancienne. Alors vous allez me dire l'Égypte par rapport à la région, par rapport au Qatar, par rapport aux Templiers. Bah si, il y a des liens.
Il y a des pyramides bien connues, pas loin de l'Odève d'ailleurs.
Voilà. Il y a des liens qu'on peut trouver. Et donc, tout ça se construit au fur et à mesure comme un puzzle. Et de temps en temps, bah, il y a une pièce qui arrive au détour d'une lecture d'un article, au détour d'une émission que je regarde. Et je me dis, bah, tiens, voilà, ça peut faire une pièce supplémentaire. Et tout ça, quand je construis un roman, je sais d'où je pars, où je veux arriver, l'intrigue principale. Mais
oui,
après,
mieux, oui.
Après, les chemins sont un petit peu tortueux, donc on se laisse aller un petit peu au gré de nos envies, de nos impulsions, et puis ça se construit tout doucement.
C'est vrai qu'on voyage pas mal, même si c'est relativement local sur le premier tome Hérésie, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et dans le second, là, on va bien plus loin, un peu partout en Europe. Donc, au-delà de l'intrigue policière réelle, où il y a une véritable enquête, des meurtres, pas véritables parce que c'est dans un roman, mais on est pris à la fois dans cette envie de poursuivre les voyages, que ce soit dans l'enquête ou géographique, puisque vous le faites très avec plaisir. En tout cas, on accompagne ces personnages. L'avenir, vous disiez un troisième tome en préparation, date de sortie ?
La rentrée prochaine. Puisqu'effectivement, je me donne à chaque fois 2 ans pour faire quelque chose quand on travaille et qu'on écrit beaucoup à côté. C'est difficile le soir, lorsque j'ai beaucoup écrit la journée, c'est difficile de réécrire le soir. Mais il n'y a pas de vérité. Des fois, je peux avoir fait 2 articles dans la journée, puis avoir l'inspiration pour écrire sur le livre le soir. Et puis inversement, avoir eu une journée sans écriture et puis être fatigué le soir et ne pas avoir l'inspiration. Mais j'écris beaucoup le soir, entre 11h et parfois 2h du matin, comme la nuit dernière. on sait qu'il va y avoir, il y a un premier jet, il y a beaucoup de retravail derrière.
J'imagine que ça ne se fait pas en une seule...
Voilà, et puis il y a vraiment des soirs où j'entendais certains écrivains parler de ça, mais il y a vraiment des soirs où on est visité, comme on dit, et où ça vient tout seul. Et puis quand on se relit parfois après, on est un peu surpris de se dire bah tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Et puis bon, par contre, il y a des soirs où c'est vraiment poussif et quand on relit, on se dit bon, allez, c'est pas bon, il faut reprendre. Donc il y a pas de vérité, il faut vraiment
c'est du travail,
travailler, quoi. Retravailler, voilà.
Et en relecture, vous arrivez à avoir suffisamment de détachement pour pouvoir avoir un recul, ou après j'imagine vous êtes accompagné et aidé sur ça.
Oui. En relecture, j'arrive à bien retravailler. Je me donne quand même un niveau d'exigence assez élevé. Et après, j'ai un comité de lecture personnel de 5-6 personnes qui le relient, qui le retravaillent et qui me, aussi bien au niveau orthographe, syntaxe, qui me permet de bien épurer et qui aussi me dit non, là, cette expression-là, ça fait 10 fois que tu l'utilises dans le bouquin. On a tous un peu nos tics.
D'écriture.
Orthographique ou d'expression. Bon, là, ton truc, c'est pas crédible, franchement, de voir arriver, il faut revoir. Donc, je tiens beaucoup compte de ça pour repatiner un petit peu mes romans. Et puis après, il y a aussi l'éditeur qui. Mais bon, il a de la chance parce que j'ai un bon comité de lecture et en règle générale, il n'est pas trop pénible, il ne me fait pas modifier grand-chose finalement. C'est plutôt sur des petites choses. À la marge. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'essaye de faire quelque chose de très dynamique avec des chapitres courts, avec un style assez percutant. Et à chaque fois, j'amène des nouveaux indices qui donnent envie d'aller plus loin. Et j'aime bien la structure de roman avec 2 histoires parallèles qui, au départ, on a l'impression qu'elles n'ont rien à voir ensemble.
Et qui viennent se recouper.
Et voilà, donc ça donne une alternance dans le récit. On passe d'une intrigue à l'autre et on y revient. Il y a des rebondissements qui renvoient
l'un et l'autre et qui donnent envie de poursuivre,
qui donnent envie d'aller loin. Et bon, c'est assez compulsif finalement. D'après ce qu'on me dit, ça fonctionne bien et les gens qui le lisent qui, en règle générale, il y a de bons retours et ils ont du mal à lâcher les romans, donc c'est plutôt un compliment quand on me dit ça.
Ce qui est exact, en tout cas, sur le premier, là, je suis coincé encore sur la moitié du second tome, et c'est vrai que ça me tarde de terminer maintenant pour pouvoir lire la suite. Est-ce que justement, pour le troisième tome, vous avez prévu des voyages particuliers pour venir appuyer le récit? Vous parliez d'Égypte, tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura encore
Alors,
d'autres voyages, vacances, écritures?
pas forcément, parce que finalement, j'en ai pas ressenti la nécessité pour l'intrigue. Il y aura des références à l'Égypte ancienne, mais pas forcément en allant en Égypte. Et on reviendra beaucoup, comme dans Hérésie, en Occitanie et à proximité de la région, puisqu'il sera question à nouveau de Saint-Guilhem-le-Désert, de l'abbaye d'Aniane notamment.
On connaît tous des légendes, des histoires, des vérités autour de cette abbaye.
Et ça sera une intrigue qui sera très, très sombre et très humide, si je puis dire, puisque ça se passera sur quelques jours, sur une période assez courte, et pendant un gros phénomène cévenol, avec des pluies abondantes, des inondations, des fleuves qui débordent, et des choses très, très curieuses qu'on va découvrir dans ces flots déchaînés.
Richard Gougis, merci pour vos réponses. J'invite chacun à essayer de se plonger dans le premier tome Hérésie et dans le second Négligence, qui sont parus aux éditions Ella. Je tiens à saluer aussi Ahmed Jelilad pour les tableaux présents dans cette salle que vous pouvez découvrir jusqu'en décembre. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement de ces rencontres et tout particulièrement à Anne pour la technique. Vous pouvez retrouver cette rencontre et ainsi que les précédentes sur le site www.1.1trait.fr. Merci et à bientôt.